Continuer notre série sur la providence de Dieu. Ce matin, on va voir le troisième sermon. On avait vu en bas et on va commencer à en faire un peu le dimanche aussi. Et la quatrième va se donner mercredi et ensuite dimanche et comme ça, alternativement. Alors, la leçon, ça va être l'œuvre de la providence avant notre conversion. Alors, dans la première leçon, dans le premier sermon, on avait étudié que le décret de Dieu dans l'éternité, c'était son plan. Donc, Dieu, toute éternité, avait un plan sur toute chose. Et pour l'exécution de son plan, le déroulement de son plan, ça se fait dans la providence. Autrement dit, tout ce qui arrive dans nos vies, à chaque jour, non seulement ça a été planifié de Dieu dans l'éternité, mais ça se déroule dans l'espace et dans le temps pour chacune de nos vies. Et on avait vu que ça se faisait à la fois collectivement et à la fois individuellement. Alors, on avait vu que Dieu, dans la première leçon, que Dieu préserve sa création. Donc, les Écritures nous disent que Jésus, par sa parole puissante, maintient absolument tout ce qui est à l'existence uniquement par la force de sa parole. Imaginez-vous. Et quand on a fait la première leçon, on a donné un petit peu une idée de la grandeur de l'univers, le nombre de planètes, le nombre d'étoiles, le nombre de galaxies. Et c'est quelque chose qui est renversant quand on se met à penser. On avait vu aussi la quantité de variétés d'animaux. On avait vu ces différentes choses-là. Et de penser que Dieu est au contrôle de toutes ces choses-là simultanément et qu'il l'a toujours fait, qu'il fera toujours, c'est quelque chose de rassurant. On avait vu aussi qu'il coopère avec sa création. Je parlais récemment avec Daniel, il me disait que, bon, il y a des personnes qui croient que Dieu le Père a mis la création là et après ça, il la laisse aller. C'est pas ça que les Saintes Écritures nous enseignent. La coopération, ça veut dire que Dieu créait les choses, mais qu'il continue, coopérer avec sa création. Il est toujours présent à l'intérieur de tout ce qui se passe. Si une fleur pousse, c'est que Dieu travaille dans sa fleur, travaille dans chacun des animaux. Et c'est important de savoir ça parce qu'on se sent moins seul. On ne se sent pas comme Dieu créer quelque chose puis il l'a tout abandonné, à cette heure, arrangez-vous avec vos troupes. Et autre chose qu'on avait vu dans la première leçon, c'est la question de la gouvernance. Dieu gouverne sa providence pour arriver à une fin particulière. Il n'y a rien qui nous arrive, qui nous est arrivé, qui nous arrive ou qui nous arrivera sans que Dieu ait un but précis avec ça. À la fois pour les inconvertis et de façon beaucoup plus particulière pour les personnes qui sont sauvées. Alors, dans Romains 8, 28, on le sait, on le répète souvent, mais c'est un verset qu'on pense qu'on a compris, mais je ne suis pas sûr qu'on l'a si compris que ça. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, une personne qui est sauvée, elle aime Dieu, par définition, et ça dit que toute chose travaille ensemble. Toutes les circonstances de la vie de la personne travaillent ensemble dans le but d'en arriver à un bien qui est la ressemblance à Jésus-Christ. Et c'est pas une petite chose non plus, parce qu'on a beaucoup de choses à changer dans nos vies si on veut ressembler à Christ. Dans le deuxième sermon, on avait examiné comment Dieu supervise et intervient avec une sagesse infinie dans la vie de ses élus, à la fois collectivement et individuellement. On avait donné des exemples, à la fois scripturaires et historiques, comme de quoi Dieu intervient de façon constante, avec une sagesse infinie, dans la vie de son Église, depuis sa fondation, et même avant, et continue aussi de le faire pour les individus qui composent cette Église-là. Donc, il n'y a rien qui nous arrive, Dieu intervient dans la vie de tous et de chacun de nous, sans exception, et tout contribue à notre bien. Donc, ce qu'on avait vu dans la deuxième leçon, c'est que cette providence-là est universelle, donc elle comprend absolument tous les aspects de notre vie depuis même avant notre création, aller jusqu'à notre mort et ce qu'on va vivre dans le ciel. Efficace, c'est-à-dire que quand Dieu a décrété quelque chose dans son plan, dans l'éternité, vous pouvez être certain que ça va se dérouler dans la providence, ça va arriver dans l'espace et dans le temps. On avait vu que c'était quelque chose qui était bénéfique. Donc, il n'y a rien qui arrive dans nos vies, même si à première vue, il y a bien des choses que je pourrais vous nommer dans ma vie qu'au premier regard, je regardais ça, j'ai-tu besoin de ça, moi, là? J'ai-tu besoin de ça? Mais dans le fond, si Dieu a permis que ça arrive dans ma vie, c'est parce que j'en avais besoin. Pour toutes sortes de raisons que je ne connais pas et que Dieu n'a pas jugé nécessaire de me les faire connaître non plus. C'est aussi encourageant. Dans le sens que si on sait que Dieu est au contrôle de toutes les circonstances de nos vies de façon absolue, ça a quelque chose d'encourageant. Dieu sait ce qui nous arrive parce que, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est lui qui a décidé que ça nous arriverait. Et aussi, cette doctrine-là nous apprend des choses, c'est révélateur du caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de chacun de ses attributs. S'il en a 25, je ne l'ai jamais compté, mais disons qu'il en a 25 pour le besoin de la cause. Ça révèle un aspect ou un autre ou une multitude d'aspects simultanément du caractère de Dieu. Alors, sa sainteté, sa bonté, sa miséricorde, sa sagesse, et on pourrait allonger la liste avec tous les autres attributs. Alors, ça révèle, si on se met à étudier et à observer ce que Dieu a fait dans nos vies, ce qu'il continue de faire et ce qu'il continuera de faire, c'est quelque chose qui révèle à quelque part, si on serait attentif vraiment, là, Dieu révèle toujours un aspect ou plusieurs aspects de son caractère dans le déroulement des attributs de Dieu, de nos vies, c'est-à-dire des circonstances de nos vies. On avait vu aussi dans la deuxième leçon que c'était Dieu, dans plusieurs endroits dans les Saintes Écritures, nous dit qu'on se devrait de se souvenir de ses miséricordes, de la manière dont il a agi dans nos vies et la manière dont il continue à agir. On se devrait de faire un effort pour consigner, ça veut dire prendre par écrit ces choses-là, de manière à ce que le but de l'observation des circonstances de nos vies et comment Dieu agit dedans, c'est tout simplement qu'à un moment donné dans nos vies, on va frapper un mur, comme on dit. On frappe un mur, une détresse, une très grande épreuve. Et c'est quand on arrive dans une épreuve ou dans la détresse qu'on a besoin de ramener ces souvenirs-là à la mémoire de manière à ce qu'on puisse aller devant Dieu et dire « Je me souviens de ce que tu as fait dans le passé. » Prenons l'exemple qu'on avait vu dans la deuxième leçon. On avait vu David qui était dans la caverne, qui était avec une petite poignée d'hommes et qui avait 3000 soldats de Saül qui s'en venaient le chercher. Il était tout seul dans le fond avec une petite poignée d'hommes. Il était sûr qu'il était prêt à être mourir. On avait vu dans le psaume 57 la semaine dernière comment David avait plaidé auprès de son Dieu pour dire « Oui, Seigneur, je sais que je suis fait, comme autrement dit, en bon québécois, je sais que je suis fait à l'os, mais je me confie encore en toi, même dans les circonstances qui nous paraissent absolument impossibles. Je sais que tu es capable de faire quelque chose. » Et effectivement, Dieu a permis que Saül ne le découvre pas dans le fond de sa cachette. Et c'est assez spécial, ça. Alors aujourd'hui, on est rendu au troisième sermon. Ce qu'on va regarder, c'est les providences de Dieu dans nos vies avant notre conversion. Autrement dit, moi je vais avoir 67 ans à l'automne. J'ai été sauvé à l'âge de 33 ans. Donc, les années de zéro à aller jusqu'à 33 ans, est-ce que Dieu a dit, bon ben là, Marcel, tant que je ne serai pas sauvé, je ne m'occupe pas de lui? Ou si Dieu, les Écritures nous disent que Dieu a pris soin de nous même avant notre conversion. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, on va voir que Dieu agissait dans nos vies dès le sein maternel. Et même, je dirais plus loin que ça, parce que les Écritures nous disent que Dieu, on était dans sa pensée avant même qu'on existe, dans l'éternité. Imaginez-vous, spécial. Hein? Et au moment de notre naissance, on va voir des versets qui nous parlent de ça. Et que Dieu aussi, durant cette période-là, disons dans mon cas, 0 à 33 ans, comment Dieu a dirigé ma vie pour me faire naître à une année précise, dans une ville précise, dans un pays précis, avec des caractéristiques physiques et intellectuelles et que Dieu a lui-même décidé que qui je serais, moi. Puis moi, je suis unique, puis vous êtes unique. Il n'y a personne qui est pareil à l'autre. Dieu nous a tous donné des caractéristiques différentes. Je vous regarde ce matin, vous avez tous des visages différents. Vous êtes tous beaux, tous belles, mais le Seigneur nous a créés comme ça. Et c'est quelque chose qu'on doit continuellement se rappeler, que c'est pas un hasard si on est, si on mesure 5 pieds 6, si on a les yeux bruns ou bleus, si on a les cheveux frisés ou non. Toutes ces choses-là, Dieu avait décidé que ça serait comme ça pour nous. Et aussi nos circonstances d'éducation. Si je serais venu au monde, par exemple, aux Indes, disons en 1600, croyez-vous que ça aurait donné le même Marcel que celui qui est venu au monde à Lac Mégantic en 1946? Non, c'est parce que, mais Dieu n'a pas laissé ces choses-là au hasard. Pour chacun d'entre nous, comme ceux des chrétiens qui ont existé à d'autres époques, pour eux aussi, leurs circonstances avaient été décidées de Dieu, tant dans le moment de notre naissance, avec toutes nos caractéristiques, et aussi notre éducation. Parce qu'il y a des pays, puis il y a des époques où il y a des gens qui étaient rendus adultes, puis qui ne savaient pas lire, puis qui ne savaient pas écrire. Pourquoi? Parce qu'ils ont été placés dans des circonstances, dans un pays où ces choses-là ne se faisaient pas. Et aussi, un autre aspect, c'est comment Dieu a travaillé pour nous faire choisir notre profession, notre emploi. Ça aussi, c'était dans les décrets de Dieu, ce qu'on ferait au cours de notre vie. J'aime bien l'auteur que je me sers, c'est John Flavel, dans son livre qui s'appelle « The Mystery of Providence ». Il dit la chose suivante, il dit avec beaucoup de sagesse, il dit « Je ne fais qu'effleurer le sujet ». Disons qu'on va en avoir 8 ou 10, là, je ne sais pas trop encore comment il va. Disons qu'on va avoir 10 leçons, disons, pour les besoins de la cause. Et il dit qu'il ne fait qu'effleurer le sujet, parce qu'il dit « Les providences, au pluriel, de Dieu » envers ses élus sont aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Alors, il y a de quoi nous rendre humbles. Peu importe le degré d'intensité qu'on va se mettre à observer les providences de Dieu dans nos vies, autrement dit, il est en train de nous dire que l'étude qu'on peut en faire, l'observation qu'on peut en faire, c'est rien comparativement au nombre de choses que Dieu permet qui arrivent dans nos vies. Donc, autrement dit, c'est pas que, à cause qu'on peut pas en connaître beaucoup, on doit abandonner. Au contraire, on se doit en connaître le plus possible. Mais si on compare à l'ensemble de ce que Dieu a fait dans nos vies, ce qu'on observe puis ce qu'il a fait, c'est deux choses différentes. Parce que ce qu'on observe, c'est notre faiblesse, c'est notre, on manque de. Seulement dans l'éternité, on va pouvoir voir l'œuvre de Dieu, comment il a composé toutes les parties de nos vies et comment il y avait de la sagesse dans ça. Moi, ce qui me fait réfléchir beaucoup quand je fais des leçons comme ça, c'est jusqu'à quel point on manque de contentement. Presque à tous les jours, il arrive des choses dans nos vies qui ne font pas nos affaires. On est toujours en train de régimber, on dirait. On chiale, on est chialeux de nature, et on pense pas que Dieu lui-même a décréter les choses qui vont nous arriver, les choses qui nous sont arrivées, et tout ça a un but plein de sagesse. Alors moi, je me dis que le chrétien, plus il devrait avancer dans sa vie, plus il devrait être plein de sagesse et plus il devrait être plein de sérénité face à ce qui arrive. Que ça soit pour lui agréable ou désagréable, ça devrait produire absolument le même effet pour nous, parce qu'on devrait dire, si Dieu, tu m'envoies ça, c'est parce que tu juges que c'est nécessaire dans ma vie. Alors, bien sûr, les providences de Dieu envers les élus sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Cependant, ça ne nous enlève pas notre responsabilité de méditer sur les providences de Dieu qui sont les plus visibles et les plus observables, et d'admirer l'intelligence et la sagesse de Dieu dans l'orchestration de toutes ces circonstances-là. Imaginez-vous, depuis le début de votre naissance, là, la quantité de choses qui vous est arrivée, et c'est comme un orchestre. Dieu est le chef de l'orchestre, puis il permet que toutes les circonstances travaillent pour vous dans un but précis. Et là, ce matin, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour nous avant notre conversion. Donc, depuis le début de notre naissance. Donc, le premier point qu'on s'est dit qu'on examinerait, c'est que la providence agissait dès le sein maternel. Bien entendu, pour aller voir qu'est-ce que Dieu dit là-dessus, pour nous, c'est le fameux psaume 139, ceux qui l'ont déjà lu, souviennent qu'est-ce que Dieu dit. Le psaume 139. Donc, les Écritures nous disent que Dieu nous a personnellement tissés. Moi, j'aime bien l'expression tisser. Je vais vous en faire quelques observations tantôt, d'après le mot hébreu. Vous allez voir que c'est riche. Parfois, un mot hébreu contient une idée qu'on ne voit pas nécessairement dans le texte parce que c'est traduit en français. On va le voir tantôt. On va commencer par lire le psaume 139 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Ça nous dit, « C'est toi, en parlant de Dieu, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça, c'est beau. On pourrait passer un sermon juste à expliquer ces trois, quatre versets-là. Mais dans le fond, on va faire quelques observations quand même. Voici de quelle façon la version David Martin traduit le verset, le même verset 14. Ça dit, « Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une si étrange et si admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le connaît très bien. » Ce que j'ai été fait, donc l'autre là-bas, ça nous disait dans le verset 14, je suis une créature si merveilleuse, ça ne parle pas du fait qu'on est fait. Donc c'est comme si Dieu nous avait usiné, en quelque sorte, dans les détails. Le fameux mot hébreu que je vous parlais tantôt pour la traduction de que j'ai été fait, c'est le mot rukamti. Je suis pas très un grand spécialiste de l'hébreu, mais quand je rencontre dans un livre une explication qui, je pense, amène de la lumière sur un texte, je le retiens. Et celui-là. La traduction vulgate, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la traduction vulgate, c'est la traduction que les catholiques ont faite de la Bible en latin, la vulgate. Alors, il avait traduit ce passage-là de la façon suivante. « Peint comme avec une aiguille. » Peint comme avec une aiguille. Je ne sais pas si vous voulez faire une peinture, puis vous voulez faire la peinture avec une aiguille, c'est très précis, puis ça vous prendrait beaucoup de temps. Alors, c'est vraiment l'idée que Dieu nous a fait avec une très, 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 très grande minutie. Je sais pas si vous avez déjà regardé des émissions de télévision où on nous montre le développement d'un bébé à partir de l'union de la cellule. Et on voit ça, c'est extraordinairement précis, c'est extraordinairement intelligent. Toute personne qui a étudié l'anatomie et la physiologie humaine, le moindrement, peut témoigner de l'intelligence éblouissante présente dans toutes les parties du corps humain. Par exemple, l'étude du seul système nerveux, on sait qu'il y a au moins 12 systèmes, mais juste l'étude du système nerveux peut accaparer le temps d'étude de toute une vie du plus intelligent des hommes. Imaginez-vous. Moi, j'avais déjà voulu faire des études en naturopathie, puis il fallait faire un travail, fallait lire un livre d'anatomie, physiologie, c'était une brique. Mais je me souviens de l'avoir lu, et en lisant un livre de science, j'étais sauvé à cette époque-là, je lisais ça, puis je disais, « Seigneur, ça n'a pas d'allure, c'est tellement d'une complexité, d'une beauté, les cellules, comment c'est organisé, comment ça se développe, et tout le corps humain. » On a même dit que certaines personnes ont venu au salut par l'observation de la complexité de l'œil humain. Imaginez-vous, quelqu'un se met à examiner l'œil, comment il est fait, et là, vous pensez, il ne faut pas faire ça dans une demi-heure, là. Même pas dans une heure, même pas dans 100 heures, même pas dans 1000 heures. Et plus vous l'étudiez, plus vous vous rendez compte que juste une partie du corps, de notre corps, ça t'amène à l'adoration. Et pas de farce, en lisant un livre d'anatomie et physiologie, souvent, j'adorais le Seigneur, je disais, t'es renversé. Alors, si quelqu'un le fait, qui étudie juste l'anatomie et la physiologie du corps humain, puis ça, c'est une affaire de ce qu'il a créé, imaginez-vous. Autre chose qu'on se devrait de retenir à partir du texte de celui qu'on a fait aujourd'hui, si nous sommes nés avec tous nos membres, si je regarde tout le monde ici, on a tous des cheveux, ou à peu près, moi, il m'en reste pas, en tout cas, il y en a qui en perdent un peu, mais on est tous nos membres avec deux yeux, on a tous deux oreilles, on a tous deux mains, deux bras, deux jambes, et l'ensemble de tous les organes que Dieu a bien voulu qu'on ait. Mais si on veut prendre conscience et apprécier ce que l'Éternel a fait pour nous, juste en nous donnant ça, là, on aurait juste à aller voir un aveugle, juste aller voir un sourd, juste aller voir un paralytique, juste aller voir une personne qui est muette, etc., etc., de toutes les personnes que Dieu a créées comme ça, pour les raisons que lui ne nous dit pas. Il dit lui-même dans les Écritures qu'il a créé les gens, c'est lui qui les crée à sa manière. Mais pour nous, quand on parle d'observation de la Providence, juste de dire au Seigneur, hey, « Moi, là, je vois. » Daniel, je me souviens qu'il m'avait déjà parlé d'une femme qui avait fait la musique pour le disque qu'il avait fait. Là, est aveugle. Un autre est sourd, un autre est muet, un autre est paralytique. Mais juste le fait de s'arrêter puis de penser, dans mon cas à moi, Dieu a permis que je vienne au monde, pas infirme, pas aveugle, pas muet, etc. Ça devrait être pour nous une occasion de louer vraiment l'Éternel. C'est pas un hasard si on est venu au monde de telle façon, mais c'est bien l'exécution de sa volonté. Quant à notre apparence, notre santé, nos capacités, nos talents. Il n'y a pas un qui a les mêmes talents. Moi, je sais bien que je ne me mesurerai pas avec Rénal au point de vue des capacités et des talents manuels. Je ne suis pas un manuel. Mais je n'ai pas de raison de me plaindre de ça. Si je ne suis pas un manuel, je ne peux pas, je suis gauche, puis j'ai les mains pleines de pouces, comme on dit. Dieu m'a créé comme ça. Mais peut-être que moi, j'ai quelque chose que Rénal n'a pas. Tu sais, ça peut arriver, là. Je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, pour dire qu'on se devrait de se contenter de ce que le Seigneur nous a donné. On n'est pas pareil, mais Dieu nous a fait d'une façon particulière. Et il y en a un qui est plus intelligent que l'autre, l'autre est moins intelligent. Et aujourd'hui, si vous regardez dans la société, la quantité de personnes qui sont vraiment contentes de ce qu'ils ont. « Ah, ben moi, les oreilles trop décollées. Moi, mes lèvres sont trop épaisses. Moi, mes ci, mes ça. » On est toujours en train de regarder quelque chose sur nous qui ne fait pas notre affaire. N'est-ce pas que c'est vrai? « Ah, ben moi, j'aimerais bien moi, les épaules comme ça. Ben moi, j'aimerais bien moi, les cuisses plus petites. Ben moi, j'aimerais bien moi, les autres. » Oui, mais quand, comme chrétien, savez-vous que ce qu'on est en train de dire au Seigneur en ce temps-là? C'est comme on est en train de regarder Dieu et dire, « Seigneur, comme constructeur, là, on peut repasser. Là, parce que moi, j'aimerais mieux avoir les yeux bleus, j'aimerais mieux avoir les yeux bruns, j'aimerais mieux avoir les cheveux frisés. » C'est presque du blasphème. Parce que Dieu nous a fait de la manière dont lui considérait qu'on se devait d'être fait. Et je n'ai pas d'affaire à envier un gars qui est plus talentueux que moi, ou de mépriser quelqu'un qui est moins talentueux. On est ce qu'on est, puis on devrait l'accepter et remercier le Seigneur de la manière dont il nous a fait, et arrêter ces fameuses façons de toujours vouloir corriger ce que le Seigneur a fait. L'être humain, là, il est fou allié par bout, hein? Je vous apprends rien en vous disant ça. Dieu a voulu et permis notre naissance. Dans Job, chapitre 3, versets 11 à 16, ça dit, Job, il dit ça, là, il dit, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Oui, je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Combien de fois on a entendu, moi dans ma famille on était 4 enfants, mais ma mère en a perdu un. Vois-tu, c'était un avorton qui n'a jamais vu la lumière. Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il voie la lumière? Je ne le sais pas, il ne me l'a pas dit. Puis même si j'y demanderais, il ne me le dira pas. Mais la quantité de personnes qui, en venant au monde, sont mortes. Nous, quand on est venu au monde, par définition, on n'est pas mort puisqu'on est ici. Donc, juste le fait qu'on soit venu au monde, l'Éternel était là et c'est lui qui a fait en sorte que, comme ça dit, pourquoi ne suis... Qui est là pour te, autrement dit, pour te pousser du sein maternel. Dans le psaume 22, versets 9 et 10, ça dit « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Voyez-vous, les Écritures nous disent que c'est Dieu qui nous a fait sortir du sein maternel. Si quelqu'un, si une femme a fait une fausse couche par hasard, pourquoi Dieu a permis ça? J'en ai aucune idée. Il ne nous dit pas les raisons de toutes choses. Mais tout ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'il fait est fait avec intelligence et sagesse. Le deuxième point qu'on va regarder, donc, autrement dit, on a vraiment vu notre corps, nos talents, notre manière d'agir, notre intelligence, toutes nos caractéristiques physiques sans exception sont une décision de l'Éternel lui-même, et c'est fait avec une grande intelligence et une grande sagesse. Le deuxième point qu'on va regarder, la Providence agissait à la naissance et dans notre éducation. Donc, le choix de la place et de l'époque de notre naissance. Les endroits de notre naissance et les époques n'offrent pas tous les mêmes opportunités. Psaume 114, verset 20. Aie égard à l'Alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Serions-nous les mêmes personnes si nous avions été élevés dans des pays pauvres d'Afrique et d'Asie, comme les Indes, ou dans le Grand Nord avec les Esquimaux? Serions-nous les mêmes personnes si nous serions nés au Moyen-Âge, où le taux de mortalité était très élevé et les conditions de vie extrêmement difficiles, ou durant une guerre, ou dans un pays communiste, ou dans un pays musulman? Est-ce qu'on serait les mêmes personnes? Dieu a choisi nos circonstances et c'est ces circonstances-là qui nous ont amené ce qu'on est aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant, John Flavel connaissait ce que c'était, parce que je pense qu'il a eu 5 enfants puis il en a gardé un. Alors, Dieu a permis qu'il perde 4 enfants. À l'époque des années 1600, c'était pas rare là, d'avoir 6, 7, 8 enfants, puis qu'après 10, 15 ans, il en restait 2 ou 3. Le taux de mortalité au Moyen-Âge était extrêmement élevé. Quand quelqu'un se rendait à 50 ans, c'était une exception. Aujourd'hui, on se rend à 80. Dieu aurait pu permettre qu'on vienne au monde dans un pays où il n'y a aucune connaissance de l'Éternel. Dans Jérémie, chapitre 10, verset 25, « Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car ils dévorent Jacob, ils le dévorent, ils le consument, ils ravagent sa demeure. » On aurait pu aussi venir au monde dans une nation idolâtre. Ils sont, psaume 97, verset 7, « Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles, tous les dieux se prosternent devant lui. » Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 13, il nous parle de le temps de la fin où les gens vont de plus en plus se révolter contre l'Éternel. Et il nous dit que même à cette époque-là, il y a des gens qui vont avoir été choisis par Dieu depuis le début, qui ne tomberont pas dans le piège. Ça parle de l'apparition de l'Antichrist. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Juste le fait de savoir qu'on est sauvé, c'est une grâce immense. Comme ça dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Des fois, on dit des mots comme ça, sauvés, nos péchés sont pardonnés, on va aller au ciel, et on réfléchit pas vraiment à ce qu'on dit. Je peux vous garantir une chose, si vous seriez plongé dans un lac de feu pour 2 minutes, puis que vous en sortiriez, vous sauriez ce que ça veut dire que d'être sauvé du feu éternel. Si Dieu nous permettait des révélations comme il a donné à Paul, de voir des choses que lui-même dit qui sont ineffables. Paul, pourtant, c'était pas un deux de pique au point de vue de l'expression, là. Il n'était pas capable d'exprimer qu'est-ce qu'il a vu et entendu au ciel. Alors, c'est des réalités qu'on a besoin parfois de s'arrêter et réfléchir sur la profondeur que la grâce nous a fait, que Dieu nous a fait en nous accordant sa grâce pour le salut. Aussi, le fait d'être venu au monde dans un pays où l'Évangile est encore prêché. Bien sûr, moi, je suis venu au monde au lac Mégantic, 21 septembre 1946. Je peux vous dire une chose, l'Évangile à lac Mégantic, moi, allé jusqu'à 16 ans, je n'ai jamais entendu parler, puis je ne savais même pas ce que c'était. On nous donnait des cours de catéchisme, on parlait du Seigneur Jésus. Oui, je ne peux pas dire que c'était complètement ignorant par rapport à Jésus-Christ. Mais la ville dans laquelle j'étais, ça me fait prendre conscience que la quantité de grâce que Dieu a eu à mon égard. Parce que l'Évangile, là, des années 1700, 1800, 1900, au Québec, là, je ne peux pas dire qu'il n'y en avait pas, là, parce qu'il y a eu des personnes qui sont venues d'Europe, qui étaient des protestants, tout ça. Mais il reste que c'était quand même assez... Le Québec, on ne peut pas dire qu'à cette époque-là, c'était reconnu comme un pays où l'Évangile florissait, là. Les années 70, il y a eu ce qu'on appelle le réveil au Québec. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont été sauvées dans ces années-là, dont moi-même, à cette époque-là. Et on ne se rend pas compte jusqu'à quel point c'est une bénédiction que Dieu ait permis que des gens viennent des États-Unis, sacrifient beaucoup, là. Des gens viennent d'Ontario. Monsieur ici qui est venu, ici le pasteur, lui son nom. Murray Héron. Imaginez-vous un anglophone qui part de Toronto, qui vient s'installer à Rouyn-Noranda, puis ne parlait même pas français. Il a appris le français pour nous évangéliser. Et si on est aujourd'hui à Rouyn-Noranda, si l'Évangile existe, c'est grâce au travail et aux souffrances énormes que ces gens-là ont payées pour nous. C'est inimaginable, vous savez. Quand vous lisez l'histoire de ces bonhommes-là, ils ont fait de la prison, ils se sont fait arrêter par la police. Il n'y a rien qui ne les a pas arrivés, là. Alors, si aujourd'hui on a l'Évangile, le fait d'être venu au monde dans une province où Dieu avait permis que par les Américains, par les Européens aussi, et par les Canadiens d'expression anglaise qui sont venus nous annoncer l'Évangile, et si on est ici aujourd'hui, c'est grâce à eux. Grâce à eux. Et ça, ça fait partie des circonstances providentielles de Dieu pour notre égard à nous. Romains 10, versets 14 et 15. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Alors, quand on part et qu'on va annoncer l'Évangile, distribuer des traités ou parler avec quelqu'un, peu importe la forme, ça n'a pas d'importance la forme, c'est de partager l'Évangile. Le Seigneur nous dit qu'ils sont beaux nos pieds parce qu'on annonce l'Évangile. Moi, aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un petit Nouveau Testament des Gédéons à l'époque. S'il ne me l'avait pas donné, ça a commencé comme ça. C'est la semence. Il a fait une semence, mais lui, il ne savait pas que j'étais pour répondre, là. Comme nous, on ne sait pas que les gens vont répondre. On donne la semence et Dieu fait ce qu'il veut avec. Aussi, l'éducation qu'on a reçue. Bien sûr, l'endroit, ça... Et on a besoin de savoir aussi que Dieu a permis qu'on vienne au monde. Aujourd'hui, vous avez une Bible dans les mains, puis je vous vois tous être en train de lire, c'est parce que vous avez appris à lire. Mais c'est pas de même partout, là. Il y a des pays où le taux d'analphabétisme est encore à 80-90%. Et nous, au Québec, je suis toujours surpris d'apprendre ça quand je vois sur les sites web où on parle d'analphabétisme. On parle de 20% au Québec. 20%! Alors, même au Québec, dans une société où on est avantagé au point de vue de l'éducation, il y a encore un grand nombre de personnes qui ne savent pas lire. Juste le fait que Dieu a permis qu'on vienne au monde dans un pays. Moi, aujourd'hui, je serais très malheureux si je dirais, j'enlève ma capacité de lecture, je ne suis plus capable de lire ma Bible. Ça m'affecterait énormément. Et Dieu a permis qu'on apprenne à lire. Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, ne s'en détournera pas. » On le sait, ceux qui ont des enfants chrétiens, ceux qui sont chrétiens mais qui ont des enfants, c'est leur responsabilité que de les instruire dans les voies du Seigneur, leur parler qui le Seigneur est, ce qu'il a fait, et qu'on les instruit sur ces choses-là. Dans le psaume 16, versets 2 à 6, ça dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, font l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux, mais échu. Une belle possession, mais accordée. » Les enfants qui ont reçu une instruction chrétienne, ils se rendent peut-être pas compte, là, mais ils ont reçu, c'est un privilège immense qu'ils ont reçu. Immense. Parce que ça nous dit dans Éphésiens 6, 4, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Un enfant qui, dès sa jeunesse, entend parler du Seigneur, qui est corrigé et instruit d'une façon constante dans les voies du Seigneur, il est privilégié par rapport aux autres enfants de la terre. Vous ne savez pas à quel point. Dans Genèse 17, versets 17 à 19, ça vient nous dire que nos choix finissent par avoir une influence sur notre postérité. Parce que quelque part, on a accepté ou reçu le Seigneur, mais c'est quelque part, on fait des choix après notre salut, on fait toutes sortes de choix. Mais nos choix influencent notre postérité. Je me souviens d'avoir lu un livre où il y avait une femme qui parlait de ce sujet-là, ça m'avait fasciné. Elle parlait, par exemple, des choix, d'un pasteur qui a des enfants. Et parmi ses enfants, il les a tellement bien influencés qu'il y en a un ou deux qui sont devenus pasteurs. Des fois, il y a eu des lignées de 4 ou 5 générations où il y a eu des pasteurs. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est l'influence d'un homme qui a fait que... Des fois, là, la postérité, là, l'influence que tu vas avoir par tes choix sur ta postérité, c'est presque incroyable. On se dit, si je fais des bons choix maintenant, puis j'ai des enfants... L'influence que ça va avoir, c'est bien plus long que juste notre génération qui est en dessous de nous. Des fois, c'est sur des générations et des générations et des générations. Il faut penser à ça. Proverbe 3, verset 33, « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. » Avoir des parents pieux, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont eu des enfants, mais les enfants qui sont élevés dans une famille où les parents sont pieux, c'était vraiment un immense privilège pour eux. Par exemple, si vous lisez dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, Paul parle à Timothée, il dit, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs et ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, aussi habite en toi. » Voyez-vous, tu es en train d'y parler de l'influence de la grand-mère sur la mère, de l'influence de la mère sur Timothée. Alors, quand on vit avec des parents pieux, les chrétiens ou les enfants de chrétiens qui ont des parents pieux, C'est un immense, immense privilège qu'ils reçoivent. Aussi, la question de prier pour ses enfants. On a tout entendu l'histoire de Monique. Hein? Monique qui a prié, je pense, c'est au-dessus d'une trentaine d'années pour la conversion de son fils. Et Augustin, à cette époque-là, c'était un courroyeux de jupon et c'était un homme qui menait une vie dissolue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de péché qu'il ne faisait pas. Et il se lâche à l'os, comme on dit. Il profitait de la vie. Il mordait dedans, plein dedans, comme on dit. Sa mère, elle a prié pour lui quotidiennement pendant, disons, 30 ans. Je ne me souviens pas les années exactes. Mais le privilège qu'un enfant a, que ses parents prient pour eux quotidiennement, ça, c'est... Je dois vous dire une petite remarque en passant. Je sais parce que je me le suis fait dire, puis je le fais par moi aussi. Au début de notre vie chrétienne, on prie beaucoup, beaucoup, intensément, fervemment pour le salut de nos enfants. Avec les années, quand on voit que la réponse n'arrive pas, là, parfois, on se néglige un peu, puis on se dit, ben là, peut-être c'est la souveraineté de Dieu qui ne viendra pas au Seigneur, peut-être tu as raison. Mais on ne le sait pas. Vu qu'on ne le sait pas, qu'est-ce qu'on se doit continuer de faire? De continuer à prier avec intensité, avec ferveur, on se doit de le faire. Moi, j'avoue que au début, c'était plus, ça a été moins, mais là, c'est en train de revenir plus. Parce que je me dis, je ne peux pas me permettre de ne pas prier pour mes propres enfants. Tu sais, mes propres enfants, là, si moi, je ne prends pas la responsabilité de prier pour eux. Et quand on parle de nos enfants, c'est les petits-enfants, parce que bien souvent, nos enfants sont rendus qu'ils ont des enfants. Nos parents, nos grands-parents, nos amis, nos parents, nos voisins. On a plein de raisons pour prier à tous les jours. Plein de raisons tous les jours. Est-ce qu'on le fait tous les jours? M'en suis moins sûr un peu. Mais en tout cas, l'effet de prier constamment pour ses enfants... Les enfants s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est un des très immenses privilèges qu'ils ont. Parce que si on prend uniquement l'exemple d'Augustin, si Monique n'aurait pas prié pour Augustin toute sa vie, pensez-vous qu'il serait venu au Seigneur un jour? Il serait mort dans son péché, il se serait roulé, comme on dit, il se serait vautré dans son bourbier, toute sa vie il serait mort dans son péché, il serait... destiné à la vie éternelle. On imagine-tu jusqu'à quel point c'est important de prier pour nos enfants? C'est important aussi de donner de la connaissance à nos enfants. Et c'est un grand privilège aussi d'être instruit par l'Église sur les voies du Christ. Comme quand on n'est pas une Église très nombreuse, mais des enfants qui viennent et qui reçoivent des enseignements sur le Christ, sur Dieu, ils s'en rendent peut-être pas compte maintenant, mais peut-être plus tard, un jour, ouvriront-ils les yeux et apprécieront-ils vraiment qu'est-ce qu'une Église a fait pour eux. C'est des choses... Alors, dans Galates 4, 19, ça dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé pour vous. » Et vous, c'est Paul qui parle. « Jusqu'à ce que Christ soit formé pour vous. » Il y a des douleurs qui sont rattachées à ça. Former quelqu'un dans le Christ, ça prend du temps, puis des fois, les gens ne comprennent pas toujours au rythme qu'on aimerait qu'ils comprennent. C'est douloureux, mais Paul continuait parce qu'il dit « Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alors, c'est le travail d'éducation chrétienne, c'est un travail de toute une vie. Maintenant, autre chose qu'on se rend peut-être pas plus ou moins compte, c'est l'influence et l'exemple qu'on a sur nos enfants. Quand on est des chrétiens, vos enfants vont bien plus remarquer comment vous agissez que ce que vous leur dites. Alors, l'idéal, ça serait que ce que vous dites, puis la manière dont vous agissez, ça soit pareil. Mais on sait que c'est pas toujours ça. Des fois, on se dit, fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Mais ça, c'est pas ça que... Influencer un enfant correctement, c'est de lui montrer tes croyances par tes actions. Si quelqu'un, par exemple, dit qu'il croit au Seigneur, puis il dit à ses enfants, « Ah, le culte, c'est très important, mais un dimanche sur trois ou deux dimanches sur quatre, il ne va pas à ses cultes. » Pensez-vous que le message que vous dites avec votre bouche à vos enfants, « Le culte, c'est très important, puis que vous n'y allez pas, que le message passe? » Non. Il pense pas. Parce qu'il dit, si ce serait si important que ça, maman ou papa, tu irais. Alors, c'est faut se rendre compte de l'influence qu'on a sur nos enfants. Parce que, bien souvent, ce qu'ils vont apprendre, c'est la vie des parents devient une copie pour les enfants. Autrement dit, plus ils vont avoir vu de réalité chrétienne et d'authenticité dans votre foi, plus ils vont voir, ils vont avoir le goût de faire ce que vous avez fait. Dans Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 7, ça nous parle de la grave responsabilité qu'on a d'instruire nos enfants. Ça nous dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est beaucoup, cela, là. « Tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et que tu te lèveras. » Autrement dit, c'est le travail de toute une vie. Toute une vie. La grave responsabilité d'instruire tes enfants dans le Seigneur. Troisième point qu'on va regarder, c'est la providence qui agit par le moyen de nos emplois. Alors, le Seigneur nous a dirigés de manière à ce que nous ne tombions pas dans le dangereux piège de l'oisiveté et de la paresse. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un de ne pas travailler parce que ça l'amène à faire des péchés. Parce que l'oisiveté et la paresse, ça l'amène au péché. Dans Ézéchiel, chapitre 16, versets 48 et 49, ici, Ézéchiel nous parle de Sodome et Gomorre. Alors, il nous dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. » Imaginez-vous, il était en train de faire des compliments au peuple d'Israël. Il est en train de dire que Sodome et Gomorre, c'était votre sœur, puis ils disent qu'ils ont fait moins pire que vous autres. Il parlait au peuple de Dieu. C'était pas un gros compliment qu'il lui faisait là. Après ça, il dit, « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne se soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » Donc, vraiment, l'abondance et l'oisiveté, ça, c'est des sœurs qui mènent vers le péché. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 11 à 12, où Paul nous rappelle que c'est notre devoir que de vivre dans le travail. Il dit « À mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Proverbes, chapitre 12, verset 7, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. » Alors, le Seigneur a non seulement dirigé et gouverné nos vies de manière à ce qu'on ait des métiers ou des emplois qui soient légaux, parce qu'il y en a bien qui travaillent, mais ils travaillent dans des affaires illégales, criminelles, et adaptés à notre personnalité. Voyez-vous, certains emplois sont dominés par les péchés. Si on prend l'exemple de Actes 19, versets 24 à 27, on a l'exemple de Démétrius et sa bande qui ne faisaient que des objets pour l'idolâtrie. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Voyez-vous, il y a un lien. Il faisait des affaires illégales, péchés, mais c'est payant. Enfin, les affaires qui sont péchées, normalement, c'est bien payant. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. » Oui, il leur disait la vérité, mais il n'aimait pas ça de l'entendre. « Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement notre industrie qui ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. et même que la majesté de celle-ci, qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier, ne soit réduite à néant. Voyez-vous, il y a des métiers, si quelqu'un viendra au Seigneur, passe à la danseuse à gogo, mais il faut qu'elle change de métier. Et il y a des métiers comme ça qui ne sont pas légaux, il faut qu'ils soient changés. Alors, Dieu a permis que, parmi les emplois honnêtes, certains demandent moins d'efforts que d'autres, et c'est aussi une providence de Dieu à notre égard. Parce que quand on regarde l'ensemble, si vous regarderiez, par exemple, un mineur dans l'Angleterre au début des années 1900, la journée de travail qu'il faisait, comparativement à la journée de travail que parfois nous on fait dans un bureau, ou dans un travail qui ne se compare même pas au point de vue des difficultés physiques. Ça aussi, c'est une providence que Dieu a fait qu'on soit dans un métier qu'on soit capable de faire. Autre idée qui nous amène à réfléchir sur les providences de Dieu à notre égard, c'est que parfois Dieu réserve à ses élus des emplois que ni les enfants ni les parents ont désiré. C'est la providence qui l'a choisi. Moi, par exemple, si vous aviez un film de ma vie de 0 à 33 ans, puis vous aviez regardé ça, disons, à un moment donné, vous auriez dit, « Lui, prêcher l'Évangile un jour? » Noé. Noé. Vraiment Noé. Il n'y avait pas de chance que... Alors, dans ma vie, c'était pas prévu. C'était pas planifié. Mes parents n'ont pas voulu... Mais Dieu m'a conduit là-dedans. C'est la providence qui a choisi. Voyez-vous, on a l'exemple dans Amos, chapitre 7, versets 14 et 15. Amos répondit à Amatia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, « Va et prophétise à mon peuple d'Israël. » Voyez-vous, c'était un berger. Dieu a pris le berger. Puis il en a fait un grand prophète en Israël. Autre exemple de David. David aussi est un berger, Dieu l'a choisi. Il choisit David, son serviteur, dans le psaume 118, verset 111, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Imaginez-vous, tu es un berger. À l'époque, c'était à peu près le métier le plus méprisé qu'il pouvait y avoir en Israël. Il prend notre ami David et il le propulse à la royauté. Est-ce que c'était prévu dans sa vie? Son père avait-tu prévu ça pour lui? Est-ce que lui avait rêvé même à ça? Aucunement. Dieu le prie, le fait monter. Dans Matthieu, chapitre 4, versets 18 et 19, l'exemple de Pierre et André, qui étaient des apôtres, ça nous dit, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Il était pêcheur de poissons, puis ils ont fait pêcheur d'hommes. C'était une grosse différence dans le métier. Je suis à peu près certain que si tu aurais parlé à Pierre ou à André quelques années avant, tu aurais dit un jour, toi, tu vas travailler pour le Seigneur, tu vas te promener de ville en ville, tu vas annoncer l'Évangile, tu vas prêcher en public. Il aurait dit, un instant, on slaque la pédale. Le Seigneur nous dit dans Romains 12, verset 11, concernant notre façon d'agir face à l'emploi que Dieu nous a donné. Ça nous dit, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et il y en a un aussi dans Colossiens qui nous dit qu'on se devrait de faire toutes choses comme pour le Seigneur. Ça, c'est une leçon qui est longue à apprendre. On lit le verset, on comprend ce qu'il veut dire, mais avant qu'on le fasse dans la réalité de tous les jours, parce qu'il y a un paquet de choses qu'on fait dans notre quotidien qui nous déplaisent, et quand on le fait avec, on ruine les brancards, on n'aime pas ça. Dieu nous dit que la façon de corriger ça, c'est de le faire comme si tu le faisais pour le Christ lui-même. Si c'était placé devant nous, là, disons que Christ serait sur la terre, puis qu'on aurait une tâche à faire, puis Christ il dirait... « Veux-tu le faire pour moi? » Ça changerait notre façon de voir, notre façon de faire. Et c'est ça que les Écritures nous demandent de faire. Quand on a un emploi, on se devrait de faire toutes choses comme si on le faisait pour le Seigneur lui-même. Imaginez-vous, c'est un gros contrat, ça. Où j'avoue que je ne fais pas tout ce que je devrais faire. Des fois, je chiale encore. On se rend compte qu'on est faible, mais Dieu nous dit quoi faire aussi pour corriger les choses qui sont à changer. Dieu nous donne aussi un avertissement face aux providences qu'il nous envoie, qui sont pleines de bénédictions, et nous, qu'est-ce qu'on en fait? On chiale. Alors, le Seigneur nous avertit que dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10, il nous donne un sévère avertissement. Dieu est à la fois très bon et très sévère. Il faut faire attention de ne pas abuser de sa bonté. Ça dit, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » C'est quoi la piété? On l'a vu en bas. Tous ceux qui ont assisté aux leçons sur l'adoration en bas, on a vu que la piété avait une multitude de branches. Hein? Il y avait beaucoup de branches. Hein? Mais la piété, ça devrait que toutes ces choses-là, on devrait toutes les faire avec le contentement. Peu importe ce qui se produit dans nos vies, on se devrait d'être content parce que c'est Dieu lui-même qui l'a planifié de toute éternité et qui permet que son déroulement arrive dans notre vie. Car il dit dans le verset 7, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. » Écoutez bien le verset 8. « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Est-ce qu'on est content, nous, quand on a la nourriture et le vêtement et un toit sur la tête? Ou si on voudrait encore plus et encore plus, puis si Dieu nous donnerait une augmentation de 10 000, on en voudrait 20 000. Puis si on aurait une augmentation de 20 000, on trouverait le moyen de la dépenser, on en voudrait 50 000. Le cœur humain, c'est comme un siphon. Il est jamais content. Dieu veut pas qu'on soit comme ça, nous les chrétiens. On se devrait d'être toujours content. Le contentement. Mais il dit ici à ceux qui veulent trop aller dans le côté de vouloir s'enrichir, verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Ce n'est pas un petit avertissement, parce qu'il nous dit dans le verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Autre chose qu'on a besoin de se rappeler concernant les providences de Dieu, et c'est, je dirais que c'est un très sage et très nécessaire rappel, le Seigneur nous dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Si on regarde la société aujourd'hui, on juge un homme à la quantité de biens qu'il a. N'est-ce pas? Oui. Même comme chrétien, on est encore porté à évaluer les hommes avec ce critère-là. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'on ne devrait jamais se péter les bretelles pour quelques biens ou quelques talents que le Seigneur nous a donnés, parce qu'il nous dit, « Pourquoi tu te vends, petit bonhomme? C'est moi qui te l'ai donné. » Si je ne t'avais pas donné la force, tu n'aurais pas acquis ces biens-là. De se souvenir de ça, c'est quelque chose de très humiliant, parce qu'on est porté à arrêter de se mesurer avec les autres, puis dire, si j'ai ça, c'est parce que Dieu a voulu que j'aie ça. Puis si j'ai plus, c'est parce qu'il a voulu que j'aie plus. Puis si j'ai moins, c'est parce qu'il a voulu que j'aie moins. Puis c'est lui qui nous donne la force d'acquérir. On n'a pas d'affaire à tout passer notre temps chialer sur ce que Dieu a permis qu'on acquiert. Et si quelqu'un vient se péter bretelle devant toi, ben tu pourrais y ramener le verset. Oublie pas, jeune homme ou jeune femme, que c'est Dieu qui t'a donné la force d'acquérir ce que tu as là. Sinon, tu ne l'auras pas. Alors, ça vraiment, ça replace les choses dans leur juste perspective, de toujours ramener le Seigneur dans le portrait, et arrêter de se mesurer les hommes les uns avec les autres. Parce que quand on fait ça, on se trompe très souvent, parce que parfois les pires bandits sont au top de la société, puis les meilleurs hommes sont en bas. Il ne faut pas... notre critère de jugement, parfois, se laisse fausser par l'évaluation de l'argent ou la grosseur du char qu'un gars a. Si vous promenez un gars avec une Rolls Royce, ah, qui doit être intelligent, ce gars-là? Peut-être qu'il était intelligent, mais peut-être qu'il a volé beaucoup pour être rendu ce que, où il est rendu. Peut-être. Alors, le Seigneur nous rappelle aussi dans le psaume 37, versets 4 et 5, à cause de toutes les circonstances qui permettent qu'il arrive dans nos vies, de nous confier constamment en lui. Il nous dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Imaginez-vous les délices, là. Faire de l'Éternel ses délices. Est-ce qu'on peut tous répondre aujourd'hui, on pourrait lever la main et dire « Moi, là, je fais tous les jours l'Éternel mes délices. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si on se donnait la peine de chercher l'Éternel chaque jour et en faire nos délices, quand on prend un repas qui est délicieux, n'est-ce pas qu'on prend un grand plaisir à ça? Est-ce qu'on prend le même plaisir à aller devant Dieu, à prier, à lire les Écritures, à étudier, à méditer, à plein de choses, là? Les moyens de grâce qu'on avait vus il y a quelques semaines, est-ce qu'on trouve notre plaisir là-dedans? Ou si parfois le monde ne vient pas nous chercher notre plaisir ailleurs? Moi, je pense qu'il vient nous chercher ailleurs bien souvent. Il dit dans le verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit, comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Alors, on vient de voir comment Dieu agit au moment de notre naissance, la manière dont il nous a construits, dans les circonstances où on est venu au monde, dans le pays, la manière dont il nous a construits, dans notre éducation. Et c'est très important de se rappeler que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes ces choses. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Adorons l'Éternel pour ses merveilleuses providences envers nous dès le ventre de notre mère. Le fait que nous soyons si étonnamment constitués, notre santé, nos caractéristiques physiques et intellectuelles, nos talents, etc. Deuxième application, louons le Seigneur pour toutes les circonstances de notre naissance et de notre éducation. Le divin chef d'orchestre travaille avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Troisième application, la main de notre grand Dieu veillait à nous éviter de tomber dans le piège de l'oisiveté. Il nous a conduits dans le choix de nos métiers et professions. Cette prise de conscience devrait nous amener à la gratitude, au contentement et au zèle dans notre travail. Que l'Éternel soit loué pour ses innombrables providences miséricordieuses avant notre conversion. Amen.